Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique ici à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Mali, 5 soldats ont été tués dans une embuscade dans le centre. Nouvelle manifestation anti-Wea Monrovia au Libéria. Lutte anticorruption au Gabon, 2 mandats internationaux lancés contre des fugitifs. Réunion au Caire sur la Libye suite à la décision d'Ankara d'envoyer des troupes sur le sol libyen. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Ce soir dans l'actualité africaine, au Mali, les forces armées maliennes, les FAMA, ont été victimes ce 6 janvier 2020 d'une attaque terroriste à Alatona. Une mission d'escorte administrative FAMA est tombée dans une embuscade avec emploi d'engins explosifs. Au cours de cette opération, 5 soldats maliens ont trouvé la mort et 4 véhicules ont été détruits. De Bamako, la correspondance de Kassim Traoré.
Tôt ce matin, un véhicule de ravitaillement des forces armées maliennes FAMA qui partait pour Djabali avec du carburant a sauté sur un engin explosif. L'explosion a été accompagnée de tirs nourris. Les assaillants ont tendu une embuscade sur la bretelle reliant le goudron à la base de Alatona. Le bilan du côté des FAMA est de 5 soldats tués, des blessés et 4 véhicules détruits. Il y a eu des morts du côté des assaillants. Ils étaient sur des motos avec des véhicules. Mais on ne connaît pas le nombre exact de leurs victimes qui ont été ramassées par certains d'entre eux. Nous confie un sous-officier qui était sur place. Des renforts sont arrivés après cette attaque pour faire des ratissages. Il faut signaler que cette attaque s'est déroulée dans la zone de Nyono, région de Ségou, plus précisément à Djabali. Déjà, le renfort des FAMA a pu arrêter 2 suspects avec des motos. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'opposition guinéenne a maintenu aujourd'hui la pression contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat lors d'une marche à Conakry de rassemblant des milliers de personnes. Des échauffourées en province ont fait au moins 12 blessés. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé aujourd'hui qu'il proposerait au Parlement des modifications de la Constitution, assurant qu'il ne s'agirait pas d'éliminer qui que ce soit de la course à la présidentielle d'octobre 2020. Le président Ouattara n'a pas donné davantage de précisions sur les modifications envisagées. Le président Ouattara entretient toujours le mystère sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Il a annoncé qu'il serait candidat si messieurs Bédier et Gbagbo se présentaient. Environ 3000 Libériens ont manifesté ce lundi à Monrovia contre l'aggravation de la crise économique sous la présidence de George Weah. Plus de détails avec Nathalie Barge.
Ayant interdit les manifestations avant fin janvier, le gouvernement a finalement autorisé ce rassemblement dimanche soir. Des magasins ont fermé par crainte de violence et les policiers ont dévié la circulation dans le centre-ville. Mais les manifestants se sont rassemblés dans le calme près du siège du Parlement. Le Conseil des Patriotes avait déjà fait descendre dans la rue en juin dernier des milliers de déçus de George Weah, ancienne vedette de football devenue président. Une nouvelle manifestation fin juillet avait donné lieu à des heurts. À moins de 3 semaines du 2e anniversaire de sa présidence, George Weah peine à tenir ses promesses de lutte contre la pauvreté et la corruption. Le pays, éprouvé par la guerre civile qui a fait 250 000 morts et le virus Ebola de 2014 à 2016, se débat avec l'inflation et la dévaluation de sa monnaie. Monsieur Weah invoque la lourdeur de la situation dont il a hérité.
Au Gabon, la traque des suspects des détournements de fonds se poursuit. Le procureur de la République vient d'émettre des mandats d'arrêt internationaux contre 2 supposés complices des inculpés qui sont déjà placés sous mandat de dépôt. Le point à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
André-Patrick Ropona a hérité d'un dossier chaud. Le nouveau procureur de la République joue à fond la carte de la transparence dans la traque des présumés détourneurs de deniers publics et leurs supposés complices. Depuis plus d'un mois, l'opération Scorpion progresse de façon spectaculaire avec des perquisitions, interpellations puis des incarcérations de personnalités publiques. Le profil des mises en cause reste le même. Ils ont tous été ministres ou directeurs généraux de grandes entreprises publiques. Le procureur de la République dresse un bilan à mi-parcours de l'opération Scorpion. André-Patrick Ropona.
Nous sommes à ce jour à 30 interpellations, dont 6 personnes mises hors de cause, 4 personnes inculpées mais laissées en liberté provisoire, 20 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt. Et nous enregistrons également l'émission de 2 mandats d'arrêt internationaux touchant messieurs Zeminko Raphaël et monsieur Koulayo Ulpay Gervais Martial. Je tiens à préciser que
le scandale se chiffre en milliards de francs CFA. Et pour assurer une opinion publique restée dubitative sur l'issue de ces poursuites judiciaires, le magistrat rappelle à souhait que l'opération Scorpion n'est pas une opération à tête chercheuse. Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
Au Nigeria, des pirates ont tué 4 membres de la marine nationale et ont kidnappé 3 étrangers. Les assaillants armés sont montés à bord du dragueur de pétrole MV Ambika jeudi soir alors qu'il était amarré au large du delta du Niger. En République démocratique du Congo, l'armée a affirmé avoir tué 16 miliciens dans des offensives contre la CODECO, le groupe armé jugé responsable de massacres de plus d'une centaine de civils en un mois dans le nord-est du pays. L'opération militaire lancée vendredi a ciblé les fiefs du groupe armé dans les villages de Ngongo et de Lipri, situés à 40 km de Bunia. 3 miliciens auraient également été capturés. Toujours en RDC, une manifestation de plusieurs centaines d'étudiants dénonçant une hausse des frais de scolarité a été violemment dispersée aujourd'hui par la police sur le campus de l'université de Kinshasa. Selon un bilan donné par la police, 9 personnes ont été blessées, dont 7 graves, et 11 personnes ont été interpellées. La situation en Libye sera au cœur d'une réunion ministérielle de 4 pays européens au Caire demain, mercredi. Elle intervient au moment où Ankara a annoncé le déploiement de troupes sur le sol libyen. Les précisions de John Lyndon.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a invité ses homologues français, italiens, grecs et chypriotes à se réunir demain au Caire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé dimanche soir le déploiement de soldats turcs en Libye, voisine de l'Égypte. Le Caire a précisé qu'il s'agira de faire avancer la recherche d'une solution globale à la crise libyenne et faire face à tout ce qui constituerait un obstacle. La Libye est déchirée entre 2 autorités, le GNA, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, soutenu par Ankara. De l'autre côté, un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar, basé à Benghazi dans l'Est et qui est soutenu par l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie. L'Égypte considère que la situation de la Libye voisine relève de sa sécurité nationale et a mis en garde contre les conséquences d'une quelconque intervention étrangère en Libye. Depuis la destitution en 2013 du président Mohamed Morsi, qui était l'allié d'Ankara par Abdel Fattah al-Sisi, depuis devenu président, les relations entre l'Égypte et la Turquie sont très tendues.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, une foule immense s'est rassemblée à Téhéran en hommage au général Soleimani, tué avec ses compagnons d'armes lors d'une frappe de drone américain. Estimée à plusieurs millions par la télévision d'État, la foule a alterné entre moments de recueillement et de tristesse et des explosions de colère aux cris de « mort à l'Amérique, mort à Israël ». Nous reviendrons sur le dossier iranien dans la partie « magazine ». Et toujours sur ce même sujet, au Yémen, des centaines de personnes ont manifesté à Sanaa à l'appel des rebelles houthis soutenus par Téhéran pour dénoncer donc l'assassinat du général iranien par l'armée américaine. À Riyad, le ministre saoudien des Affaires étrangères a appelé au calme après la très dangereuse escalade entre l'Iran et les États-Unis, ce sont ses termes. Et puis de son côté, Moscou a pressé tous les pays engagés dans l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 de continuer d'en faire une priorité et a demandé aux Européens de remplir leurs obligations pour s'assurer que l'Iran s'y conforme. Téhéran a annoncé qu'il ne se sentait plus lié à cet accord, mais d'après Moscou, cette annonce ne constitue aucune menace du point de vue de la prolifération nucléaire. Les élus démocrates au Congrès américain vont déposer cette semaine une résolution visant à limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump. Ils estiment que la frappe contre le général iranien est provocatrice et disproportionnée. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, les arrivages de cacao dans les ports ont atteint plus de 1 150 000 tonnes entre le 1er octobre et le 5 janvier 2020. C'est une hausse de 3,6% par rapport à 1 113 000 tonnes pour la même période de la saison dernière. Environ 41 000 tonnes de fèves ont été livrées au port d'Abidjan et 43 000 tonnes à San Pedro, pour un total de 84 000 tonnes contre 70 000 tonnes la saison dernière. Le mineur canadien First Quantum Minerals veut investir environ 1 milliard de dollars pour augmenter la production de la plus grande mine de cuivre d'Afrique en Zambie. L'investissement ajouterait une décennie de vie à la mine de Kashanchi et réduirait les baisses de production de cuivre. Il augmenterait la production annuelle à 300 000 tonnes contre 235 000 tonnes l'an dernier. L'obtention de l'approbation du conseil d'administration sera nécessaire avant toute opération. Pour terminer, la Banque centrale du Zimbabwe lance deux émissions obligataires dont une est censée lever plus de 80 millions de dollars pour financer la culture du maïs et du soja. Le pays fait face à une sécheresse qui pourrait aggraver la situation économique déjà désastreuse. La première obligation a une durée de 270 jours et un taux d'intérêt entre 15% et 18%. Une deuxième obligation de 50 millions de dollars cherche à lever des fonds pour importer des produits chimiques et des engrais agricoles. La banque payera 9,5% d'intérêt.
Maintenant, la page sport présentée par Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Claire.
L'ancien gardien de but de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, Hans Tilkowski, est décédé à l'âge de 84 ans.
Le vice-champion du monde de 96 est mort des suites d'une longue maladie. Il restera surtout connu pour l'affaire du but fantôme, l'un des plus controversés de l'histoire du football, encaissé lors de la finale du Mondial 66, perdu 4-2. En prolongation contre l'Angleterre, un match qui fait toujours causer en Allemagne. C'était à la 11e minute des prolongations et le score était de 2-0, ce 30 juillet 1966. Le tir de l'attaquant anglais Geoff Hurst frappe la barre transversale du but de Tilkowski, puis rebondit au sol. Devant ou derrière la ligne, malgré les protestations des joueurs allemands, l'arbitre suisse, après avoir pris l'avis formel de son assistant, accordera le but qui mènera au triomphe des Anglais. La polémique reste entière jusqu'à aujourd'hui sans que les spécialistes n'arrivent à s'accorder sur la controverse. L'événement a tellement marqué les esprits en Allemagne et en Grande-Bretagne qu'il est entré dans le langage courant et Wembley Tor en allemand, littéralement but de Wembley. Ce but aura traumatisé Hans Tilkowski, qui avait du mal à évoquer cet épisode douloureux. « Je mourrai avec la certitude que le ballon n'était pas rentré », avait-il déclaré. Sa carrière internationale s'achèvera en 1967 après 39 sélections à seulement 31 ans.
Coupe de la Ligue anglaise, Manchester City affronte Manchester United en demi-finale.
Si le titre de champion d'Angleterre semble irrémédiablement perdu, Manchester City aura à cœur de conserver les deux coupes nationales qu'il détient, à commencer par la Coupe de la Ligue pour laquelle il ira défier United en demi-finale à mardi.
Nouvelle performance majeure de Liverpool.
L'actuel leader de Premier League a de nouveau créé la sensation en battant son rival Everton 1-0.
Dakar 2020, la deuxième étape pour le Sud-Africain De Villiers, Alonso déjà distancé.
Il a remporté lundi la deuxième étape du Dakar 2020 après 401 km dont 367 de spécial entre Al Wajh et Neom en Arabie Saoudite.
Enfin, quelques résultats NBA. Lakers et Clippers s'imposent au forceps. Miami sans forcer.
Les Lakers et les Clippers ont peiné pour venir à bout des mal classés Detroit et New York, contrairement à Miami, toujours aussi intraitable à domicile aux dépens de Portland dimanche en NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Human Rights Watch s'alarme de la flambée d'atrocités commises par les islamistes armés au Burkina Faso. Depuis avril 2019, l'ONG affirme avoir dénombré dans ce pays plus de 250 civils tués dans des attaques ou sommairement exécutés. Ces violences ont forcé des centaines de milliers de Burkinabés à fuir leur domicile, note Human Rights Watch. Timothée Donangmai s'est entretenu à ce sujet avec Corinne Dufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch.
La flambée des violences a passé dans un contexte d'une détérioration des sécurités et des respects des droits humains en général dans la Sahel, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. À partir de 2016, quand les attaques ont commencé à Burkina Faso, les djihadistes ont commencé pour attaquer le représentant de l'État, c'est-à-dire les élus, les chefs de village, le maire, les enseignants, avec le but de vider l'espace de leur représentation gouvernementale. Mais à partir du fin 2018 en 2019, ils ont commencé de faire les attaques contre le Saramo et le village entier. Donc ça avait vraiment devenu beaucoup agressif. On a documenté 250 personnes tuées, assassinées, ciblées, mais il y en avait beaucoup des incidents. On a documenté 20 incidents, mais il y en avait beaucoup des incidents qu'on n'a même pas touché. Donc ça veut dire que c'est quand même plus grave que ça.
Un aspect de ce conflit qui inquiète Human Rights Watch, c'est le recrutement par les djihadistes de militants au sein des communautés locales.
Exactement. Donc, il y a plusieurs dynamiques qui soulignent le flambe des violences. D'abord, c'est que les djihadistes, depuis 2015 au Mali, ont concentré le recrutement envers une communauté. Ça, c'est la communauté Peul ou Fulani. Ils ont exploité leurs revendications envers la pauvreté, la corruption, etc. Donc, ça a engravé, attisé la tension ethnique. Parce que la plupart des victimes qu'on a trouvées, que c'est la plupart, c'était de la communauté Foulsé, Moussi, Songoé, Goromaché, qui sont la communauté surtout agriculteur. Donc, ça, c'est une dynamique. L'autre dynamique, c'est la stratégie antiterroriste qui a adopté le gouvernement burkinabé, qui a engagé dans un punissement collectif contre la communauté Peul. Il y a un certain nombre des Peul qui ont été exécutés par le gouvernement. Cette situation a fait que remplit le rang des djihadistes.
Les djihadistes qui essaient aussi, Corinne, d'exploiter le sentiment religieux.
Absolument. Et je crois que pour les djihadistes, les combien le désordre total, ils ont essayé des profondeurs, les tensions ethniques, politiques et religieuses, parce qu'on a documenté plusieurs attaques qui ont ciblé les chrétiens.
Quelle est la solution à cette crise, Corinne?
Et Burkina Faso, c'est un pays très important aussi pour les djihadistes, pour leur projet d'expansion, parce que le Burkina Faso, c'est le pont entre le Sahel au nord et l'Afrique au sud, le Ghana, le Bénin, les autres endroits. Donc, la solution pour moi, c'est d'abord, tous les groupes armés doivent faire la distinction entre qu'est-ce que c'est une cible militaire et qu'est-ce que c'est une cible civile.
C'était Corinne Dufka, directrice pour l'Afrique de l'Ouest à Human Rights Watch. participer à notre magazine interactif À votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique. Le colonel Issiaka Ouattara, alias Ouattao, ancien chef rebelle ivoirien et commandant de zone, est décédé dimanche à New York des suites d'une maladie. Ancien chef de guerre des forces nouvelles, Monsieur Ouattara était un des acteurs majeurs de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Malgré sa maladie, Ouattao avait été promu colonel-major le 18 décembre dernier. Comment les populations de Boaké ont réagi à l'annonce de sa mort? Idriss Fall, adjoint sur place, Ben Kassamba, un ancien journaliste.
Avec consternation, hein, tout le monde en parle à Boaké. Les gens regrettent. Ceux à qui il a fait vraiment du bien, ils regrettent amèrement. Tout le monde pleure.
Et pourquoi?
Parce que quand il était là, quand il vivait à Boaké, il rendait des services. Bien qu'on ait peur de lui, mais ceux qui arrivaient à l'apogée et lui exposaient les problèmes, ils résolvaient.
Maintenant, quel est le rôle militaire qu'il a joué dans l'histoire de Côte d'Ivoire?
D'abord, le rôle militaire, là maintenant, oui, c'est qu'à Boaké, il était le second le général Bakayoko. Lui, il était chef d'État. Major des forces armées de France et Issiaka Ouattara dit Ouattao, le secondaire, pour vraiment l'aider à travailler dans le sens vraiment militaire. Avant cela, on sait qu'avec son groupe, il y a eu des revendications un peu illégitimes, mais ils n'ont pas été compris. Affaire de Mercedes noire, ils n'ont pas été compris. Puis la rébellion est venue. Puis bon, il était à Boaké. Il avait une compagnie qu'on appelle Anaconda, et on l'appelait Sabélébélé. En langue mandingue ou malinké, le gros serpent.
Le gros serpent a joué un rôle dans l'offensive pour la prise d'Abidjan.
Ah oui, absolument, absolument. C'est pas ça seulement, on le sait. Et on l'a vu aussi, l'image que moi je retiens de lui, c'est que quand il y a eu la restauration de Gbagbo Laura, bon, mais quand on l'a mené Gbagbo Laura au Guelph Hotel, c'est lui qui s'occupait de Gbagbo Laura, vous voyez.
Après, il a gravi les étalons de l'armée dans le haut commandement de la garde républicaine.
Là, il était la garde républicaine, après CCDO, et après, il est parti au Maroc, il s'est perfectionné, et il a gravi des échelons aussi là-bas, puis il est revenu. Donc vraiment, il a un parcours militaire, on peut dire, il a amélioré son statut militaire. Après son stage au Maroc, il est revenu, il a gravi des échelons.
Mais il est revenu dans un contexte de tension ouverte entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ses anciens patrons, non?
Vous savez, les militaires, ce sont les frères d'armes. Une fois qu'ils disent que la guerre est finie, la guerre est finie. Maintenant, ça, c'est les politiciens. Tous ceux qui vont dire qu'il était de ce côté, il était de ce côté, non, à ma connaissance. Parce que lorsqu'il y a eu le premier pour parler, quand à Boaké, quand Yamsoukro, j'ai entendu, j'ai vu des choses, les militaires se sont jurés qu'ils ne vont plus se faire la guerre. Et je vous fais une confidence, il y a un militaire qui était au nord, son frère était au sud. Quand ils se sont rencontrés à Boaké, mais c'est quoi, toi tu es ici, t'es là-bas? Ils étaient étonnés de se combattre alors qu'ils sont de la même famille. Ouais. Donc comme ils ont pris le serment qu'ils ne vont plus faire de guerre, ils vont plus se combattre pour un individu, c'est ça la neutralité de l'armée. Et parce que c'est dans ce sens-là, à ma connaissance, peut-être maintenant au sommet, s'il y a d'autres choses-là, ils ne sont pas au courant de ça.
C'était Ben Kassamba, un ancien journaliste à Boaké.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Nous vous le disions en début de cette édition, les rues de Téhéran ont été envahies par des dizaines de milliers d'Iraniens en pleurs pour accueillir le corps du général Qassem Soleimani, tué à Bagdad dans une frappe de drone américain. Hier, l'Iran a également déclaré qu'il ne se conformerait plus aux obligations de l'accord de 2015 sur le nucléaire. Les explications d'Arash Arabassadi avec le récit d'Abdourahman Dia.
C'est une foule impressionnante qui a accompagné le cercueil du général Qassem Soleimani. Un tir de drone américain l'a tué vendredi. La frappe, qui a aussi tué ceux qui l'accompagnaient, survient quelques jours après que des manifestants ont envahi l'ambassade américaine à Bagdad. En réaction, le Parlement irakien a, dans une résolution, demandé au gouvernement d'expulser les troupes américaines. Le président Trump justifie la frappe par une menace imminente contre les intérêts américains.
Il mijotait les attaques contre les Américains. Mais maintenant, nous avons fait en sorte que ces atrocités soient arrêtées pour de bon. Elles sont arrêtées pour de bon. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passait, mais ils prévoyaient une attaque très importante et nous l'avons eue.
Certains estiment que les raisons avancées pour justifier l'attaque sont légères et mettent la vie d'Américains en danger. Mais le secrétaire d'État Mike Pompeo défend la décision.
Pour les hauts responsables qui avaient accès à toutes les informations, il n'y avait aucun doute. L'évaluation des renseignements est claire. Permettre à Soleimani de poursuivre son complot et sa planification, sa campagne de terreur, crée plus de risques que l'éliminer comme nous l'avons fait la semaine dernière.
Trump dit qu'il ne veut pas de guerre avec l'Iran. Mais samedi, sur Twitter, il a menacé de frapper des sites culturels iraniens si l'Iran ripostait. De l'avis de Mike Pompeo, il n'y aurait aucune violation du droit international. Du côté du Parlement iranien, des législateurs se radicalisent au cri de mort à l'Amérique. La tension n'a jamais réellement baissé entre l'administration Trump et l'Iran depuis la sortie en 2018 des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Hier, l'Iran a annoncé qu'il ne respecterait plus aucune règle de cet accord, suscitant de nouvelles inquiétudes des Européens et de la Chine qui demandent à Téhéran de ne pas abandonner l'accord.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to poop. Big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and fall alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that station, stuck up on that station.
Et voilà, c'est au son de Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, que nous nous quittons. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Lionel Gaïma. À la console, Voltec Journiac. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, bien sûr. Et nous n'oublions pas notre page Facebook. Restez avec nous. Tout de suite, un nouveau point sur l'actualité présenté par Henri Francisque, suivi d'À votre avis, votre émission interactive, présentée aujourd'hui par John Linden. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. I cut them all loose and work my excuse, but the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and hold it open. You don't wanna ride the bus like this, never know who to trust.